Votre grande journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Les grandes voix, c'est jusqu'à 19h chaque soir dans ce studio à mes côtés ce soir. Michel Cotta, bonsoir Michel.
Bonsoir.
Bonsoir Charles Villeneuve.
Bonsoir.
Bienvenue et on salue David Revaud-Allonne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. David. Vous êtes rédacteur en chef politique au journal du dimanche. Merci à tous les trois d'être là et merci à vous chers auditeurs qui nous suivez et qui nous appelez au 39-21. On va regarder de près ce qui va se passer ce week-end. On va parler évidemment de la rentrée de Blanquer, la pré-rentrée des profs, c'était ce matin, les élèves, ce sera lundi. On y revient dans un petit instant. Mais quand même, cette rentrée de la droite, en ordre dispersé, hein, c'est vraiment, je crois, le terme adéquat. On a parlé de la rentrée du gouvernement, on spécule sur cette rentrée, mais je crois que s'il y en a une sur laquelle on peut spéculer, Charles Villeneuve, c'est certainement la rentrée de la droite, avec la présidence des LR en ligne de mire.
Enfin, moi, je trouve la droite atomisée. Parce que la droite, depuis 2012, elle n'a rien foutu. Elle n'a pas travaillé. Depuis Sarko, depuis la défaite de Sarko, elle a attendu mécaniquement l'effondrement de la gauche. Et elle a pensé qu'il y aurait une alternance tout aussi mécanique qui la porterait au pouvoir. Et puis, qui a surgi? Pas comme Zorro, mais Macron. Macron a bouleversé complètement la donne. Et depuis, la droite court après. Et pas seulement la droite, d'ailleurs. Bien sûr, la gauche, les autres partis, les grands partis politiques. Et il s'agit de retrouver pour la droite, et là on le verra s'ils vont se mettre au travail et tout, un espace, si vous voulez, idéologique. Et la deuxième difficulté de la droite, je trouve, c'est qu'elle n'a pas de chef charismatique, en tout cas. On n'en voit pas surgir un chef qui n'est pas dépourvu d'idées.
Donc ça veut dire que Christian Jacob, Julien Aubert, Guillaume Larrivé, dans les trois en course, aucun ne vous parle.
Non, mais je parle sous le contrôle de mes camarades qui ont passé une partie de leur vie ou qui passent une partie de leur vie à observer le bocal politique. Moi, je ne vois pas. Chirac et Sarko avaient quand même été porteurs d'une synthèse correspondant à l'esprit du temps, en tout cas identifiable. Là, ce n'est pas le cas. Là, on ne voit aucun de ces personnages.
C'est vrai que je ne sais pas lequel de nos confrères disait l'autre jour. C'est quand même la première rentrée politique, et c'est vraiment mon cas, et je pense que c'est notre cas tous les trois, c'est vraiment la première rentrée politique où on ne voit rentrer qu'un homme, qui est le président de la République. C'est drôle, parce que généralement, on a les universités d'été d'un côté, les universités d'été de l'autre. Là, université à gauche, il n'y a personne, il n'y a pas Mélenchon.
Mélenchon
université
est
à droite,
du monde.
On voit bien, il y a des gens, mais on voit
mais
bien que
plein
le président du Sénat...
Il y a plein de rentrées, chacun de leur
le
côté.
Le président du Sénat joue un rôle différent, il fait le tour des territoires, Valérie Pécresse reste sur son compte à soi, Xavier Bertrand attend l'émission politique de France 2 pour se déterminer. Bon, c'est-à-dire... la rentrée est à l'image, quand même, du mouvement.
Ouais. David, dispersé, donc c'est le mot-clé. On va entendre juste Christian Jacob, parce qu'il est donc un des trois candidats pour cette présidence des Républicains. Peut-être pas candidat emblématique, si j'en crois Charles Villeneuve. En tout cas, il a le mérite de dire qu'il faut rassembler. C'est sûr, c'est le mot-clé.
Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde comprend bien la nécessité de nous rassembler et la création de ces petites chapelles les unes à côté des autres. Effectivement, si on ne peut pas travailler ensemble, on voit bien l'intérêt, mais si on a la volonté de travailler ensemble, il faut le faire dans la grande maison.
Mais est-ce qu'ils peuvent, David, travailler ensemble? Il y a eu des batailles, il y a eu la crise de l'UMP à l'été 2005, il y a eu tout ça, ils ont réussi. Est-ce que là, on peut y arriver?
Je crois qu'on a changé d'air, effectivement, comme disait Charles Villeneuve, la droite, et comme le disait aussi Michel Cotta, cette rentrée n'a jamais été aussi atomisée à droite. Simplement, depuis deux ans, elle avait réussi à faire illusion, cette droite. La grande victime, le grand cadavre du macronisme, c'était d'abord le Parti Socialiste, parce qu'on sortait du quinquennat Hollande, parce que Macron avait réussi à trahir puis à dribbler Hollande et que c'était vraiment la moitié des socialistes qui étaient partis avec armes et bagages chez le nouveau président. On avait l'impression que la droite se portait mieux parce qu'elle avait fait des bonnes législatives, il y avait un bon groupe avec plus de 100 députés, il restait encore des personnalités assez valables, ce qui n'est plus le cas au Parti Socialiste. Aujourd'hui, quand on voit autour de la table du bureau politique du PS, voilà, vraiment, ce sont des pardonnez-moi, sans être désobligeants, des joueurs de 3e division.
De 3e division, carrément.
Et là, ce qui a éclaté aux yeux des observateurs et de l'opinion publique, c'est que finalement, la droite, elle n'est pas si loin d'être dans cet état délétère, parce que les élections européennes ont été absolument catastrophiques, et que malgré le son que nous venons d'entendre de Christian Jacob, qui fait assaut de bonne volonté, cette droite, elle rentre à son puzzle.
On va revenir, je voudrais juste qu'on écoute Christian qui nous appelle de Niort et qui nous attend. Il est au 39-21 dans les Deux-Sèvres. Bonsoir Christian, merci beaucoup de nous être fidèles sur Europe 1. Qu'est-ce que vous dites, vous, quand vous voyez ce paysage très éclaté, donc à droite, avec finalement cette guerre de chapelle, elle est là, hein, même si Christian Jacob dit le contraire.
Bonsoir Nathalie, oui, bonsoir,
bonsoir à tous nos
interlocuteurs. Ben oui, moi je suis, j'ai 54 ans, j'ai toujours voté à droite, sauf que après avoir pris la claque Fillon, ben je suis devenu un électeur désabusé qui a voté Jean Lassalle au premier tour et qui s'est abstenu au deuxième
tour. Grand écart quand même.
Grand écart, mais bon, c'était manière de dire, ben voilà, j'ai plus personne. Comme disait Charles Villeneuve à juste titre, il n'y a plus de leader, et puis on a besoin aussi de voir émerger de nouvelles têtes. On a besoin également aussi
Quand vous voyez les trois candidats, par exemple, pour la présidence des Républicains, Julien Aubert, Guillaume Larrivé, Christian Jacob, vous croyez dans un des trois? Vous avez entendu Charles Villeneuve, hein, plutôt circonspect, voire pire, j'allais dire. Charles, vous y croyez pas une seule seconde? Est-ce que
non,
dans
mais
ces trois...
c'est pas que j'y crois pas, mais moi j'adhère totalement à ce que vient de dire notre ami, l'auditeur, Christian. C'est que, si vous voulez, je ne nie pas la valeur indéniable et le travail qui a été fait à la tête du groupe parlementaire de Jacob, de Christian Jacob, qui est un très bon président du groupe parlementaire. Mais la droite, elle a besoin d'un candidat à l'élection présidentielle.
Christian,
c'est pas la même chose.
Christian, dans les trois candidats, est-ce qu'il y en a un, selon vous, qui peut avoir l'envergure d'un Nicolas Sarkozy, enfin, qui est en devenir dans ce sens-là?
Ben, le problème, c'est qu'on ne le sait pas à l'heure actuelle. Et puis, je crois qu'il y a deux problèmes importants. D'abord, le premier problème, c'est qu'il n'y a pas d'idée.
Il n'y a pas d'idée.
Pour faire des constats, ils sont très forts. Il y a eu un discours de Laurent Wauquiez cet été qui était très fort sur les constats, mais aucune proposition. On a des thèmes nouveaux comme, l'aménagement du territoire, comme l'écologie, qui devrait susciter des propositions et des idées. Il n'y a pas d'idée. Ouais.
Christian, l'idéologie, le tournant idéologique. On va y venir dans la deuxième partie. Merci beaucoup de nous avoir appelé au 39-21, Christian. Le tournant idéologique, Michel, vous allez réagir là-dessus juste après la pause, voilà. Avec David Revaud-Allen, avec Charles Villeneuve dans ce studio en direct.
Jusqu'à 20h sur Europe, hein, Nathalie Lévy. La suite de votre grand journal du soir sur Europe avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de la table, Michel Cotta, Charles Villeneuve, David Revaud-Allen du JDD. Et vous aussi, toutes vos réactions et vos questions au 39-21, 50 centimes la minute.
Et oui, parce que vous avez des choses à dire sur la droite qui fait sa rentrée ce week-end de Michel Cotta. On parlait avec Christian qui nous appelait de Niort, on parlait des idées, de l'absence d'idées à droite.
Il y a aussi une absence d'idées, sûrement, mais il y a aussi une absence de territoire. C'est vrai que c'est très difficile pour une droite classique de trouver ses marques entre Emmanuel Macron d'un côté et la gauche social-démocrate, même si elle n'existe pas. C'est très difficile. On voit mal comment... Et en plus, sur les idées, s'ils n'avancent pas d'idées, c'est que c'est souvent Emmanuel Macron qui les avance. Par exemple, sur les retraites, c'est vrai que la droite a du mal à exister, alors que c'est... Et de ce point de vue-là...
Et pourtant, elle a amorcé une réforme courageusement.
Justement, elle l'a amorcé, donc c'est d'autant plus difficile
pour elle... Fillon, d'ailleurs,
de dire
qu'il ne
faut pas continuer. Non, mais c'est d'autant plus difficile pour elle de dire « Ah, on a tort de toucher à la retraite ». Donc, elle n'a pas de territoire aujourd'hui, parce que Macron lui en coupe un peu. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure, en écoutant justement... Darmanin contredit par le Premier ministre. Je me disais que si Darmanin disait la campagne, la retraite, c'est pour l'année prochaine, là, ça allait commencer à fournir un petit grain à moudre
un peu
à la
matière.
Droite.
Ils
s'en sont aperçus dans la journée, ils ont rectifié le tir.
Parce que vous avez vu, vous l'avez observé, on l'a tous observé et commenté ici, Emmanuel Macron a été très tourné vers l'international là, en cette rentrée. Et Christian Jacob, il l'a repéré, il a dit une alternance après le macronisme, c'est possible. Là, il y a peut-être quelque chose à en tirer, mais il va falloir se positionner. Alors, l'aile souverainiste patriote, David Revaud-Allen, l'aile plus libérale.
Avant tout ça, il faudrait d'abord un parti en état de marche, c'est-à-dire un parti uni, avec un leader, et ça vient d'être dit, des idées, un programme. Or, précisément, à droite, il faut toujours, dans la tradition historique, depuis le général de Gaulle, et même sans y remonter, depuis Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, vous avez un grand leader, charismatique, qui s'impose, qui prend le parti, qui en fait un instrument de conquête. Vous voyez aujourd'hui, et là encore, sans faire injure à Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert, Ils savent très bien, ils le disent eux-mêmes, ils ne seront pas candidats à l'élection présidentielle. Donc vous allez avoir un chef du parti qui sera, peut-être relativement populaire du point de vue des militants, mais pas légitime pour concourir à la mère de toutes les batailles. Et puis à côté, vous avez les candidats crédibles, parce qu'il y en a encore, hein. Xavier Bertrand, bien sûr, Valérie Pécresse. Quelques autres, pourquoi pas Laurent Wauquiez qui pourrait revenir.
Pour l'instant, c'est plutôt la traversée du désert, un peu plus hasardeux.
Mais effectivement, mais ceux-là ne sont pas dans le parti. Ils ne seront pas demain à la Baule. Xavier Bertrand sera ailleurs, Valérie Pécresse fait sa rentrée de son côté à Brive, je ne parle même pas de François Baroin qui lui sera encore dans un quatrième endroit.
Lui, il hésite vraiment à se lancer de toute façon, François Baroin.
Mais vous avez quand même, vous avez des personnalités de qualité, de talent, charismatiques, mais qui ne sont pas dans le jeu de la droite, et ça, c'est un règlement.
Le constat qu'on peut faire là, c'est que la droite, elle est orpheline de Sarkozy, on l'a encore vu justement pour... les rencontres, puisque maintenant on ne dit plus les patrons et tout ça.
Et on le voit dans les sondages très régulièrement.
Des entrepreneurs.
Bon, le succès de son livre. Il est là, il suscite toujours un intérêt incroyable, il y a un manque.
Moi j'attendais que, enfin on verra quel est le sommaire de, des universités, c'est des universités à la Baule. C'est pas mal, les universités à la Baule. Et, et donc, il y a des idées sur lesquelles on peut plancher. Je trouve, moi, j'en ai mis quelques-unes. Là, le Parti des libertés locales, le Parti des territoires. Elle parlait des territoires, Michel, tout à l'heure. De la responsabilité individuelle, de l'autorité.
Oui, sauf que c'est pas
audible. On l'a vu encore avec les profs. Les profs exercent des métiers publics. Oui. Et de plus en plus, ils vont être la cible, comme les pompiers, les policiers, les gendarmes. Puisqu'on a vanté, on ne vante aujourd'hui dans notre société que les métiers d'argent. Donc on a le revers, de toute façon, de la médaille de plus en plus. Bon. Pourquoi ne pas réfléchir à la valorisation, justement, de ces métiers publics ?
Parce que ça bouleverse toutes les réflexions précédentes. On ne réfléchissait jamais avant à droite sur les territoires, sur
l'écologie.
Sur l'écologie, ça bouleverse. C'est vrai qu'on est dans une période où nous-mêmes d'ailleurs, les valeurs sont complètement
modifiées.
Les valeurs de la politique deviennent des valeurs sociales.
Le refus du communautarisme.
Oui, bien sûr.
Le refus de l'archipélisation, cher à Jérôme Fourquet, le directeur général de qui a fait un excellent livre là-dessus.
Est-ce que ça les différencie vraiment d'Emmanuel Macron Est-ce que ça les différencie vraiment d'Emmanuel Macron?
Oui, parce que l'autorité. Sur l'autorité, j'attends toujours le discours du président de la République qui le repousse depuis qu'il a été élu sur la laïcité. On attend toujours ça. Où est-il?
Bon, on a dit des choses sur la droite et je crois que si on résumait, pour l'instant, pas de chef, pas de stratégie, peu d'idées, même si vous en avez cité Charles Villeneuve. On les a entendus. La rentrée, c'est aussi celle des profs ce matin, des élèves lundi, et d'un Jean-Michel Blanquer qui était, pour ainsi dire, le meilleur élève du gouvernement, David Revaud-Allonnes, je vois opiner du chef, et qui est peut-être maintenant, j'allais dire, presque au piqué.
Il a perdu des notes, sa moyenne a baissé dans les derniers trimestres, clairement. En tout cas, largement. C'est vrai qu'il avait une cote absolument ahurissante du point de vue du président, d'abord, président Macron, du Premier ministre, de l'opinion. Il était très proche, assez proche de Brigitte Macron, ce qui peut arranger quand même les affaires d'un ministre. Il incarnait parfaitement le macronisme triomphant, au point que...
Et il aurait été Premier ministre.
Voilà, c'est ça. Oui.
Il aurait été Premier ministre de Fillon.
Absolument.
Il aurait été ministre des Affaires étrangères et d'Éducation nationale de Fillon.
Et on a même pensé à lui quand des rumeurs de départ d'Edouard Philippe ont circulé il y a quelques mois pour le remplacer à Matignon.
Donc, il avait tous les atouts dans sa manche.
Voilà. Et puis c'est vrai que dans les derniers mois, ça s'est dégradé. Il y a eu pas mal d'affaires. Charles Villeneuve faisait allusion aux questions de l'autorité des professeurs. On a vu qu'il y avait eu quand même beaucoup de violences physiques, verbales, etc. Il y a eu des mouvements de grève ou des mouvements sociaux de la part des enseignants non maîtrisés. Il y a eu cette terrible affaire des copies du baccalauréat, des résultats du bac qui ont été retenus. Et ça, il a eu du mal à s'en sortir. Et forcément, il a perdu des plumes dans l'affaire. Et vous remarquerez d'ailleurs pour terminer, sa rentrée, elle se fait sur un mode, comme le président, beaucoup plus soft.
Piano-piano, on marche sur des œufs.
Absolument.
Alors, on marche sur des œufs, mais on se retrouve dans un tout petit instant parce que je voudrais savoir, ce que vous lui prédisez, en quelque sorte, à Jean-Michel Blanquer pour cette rentrée. Charles Villeneuve, Michel Cotta, David Revaud-Allonnes. Et vous, au 39-21, dites-nous aussi ce que vous en pensez. 18h49 sur Europe 1, votre grand journal du soir. La suite avec Nathalie Lévy et le débat des grandes voix ce soir autour de vous, Nathalie. Michel Cotta, Charles Villeneuve et David Revaud-Allonnes du JDD. Toutes vos réactions et vos questions aussi au 39-21, 50 centimes la minute. Vous nous avez brossé le portrait, David Revaud-Allen, juste avant l'interruption de Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer qui n'a plus la cote. Hein. Vous avez vu, j'imagine, Charles Villeneuve, Michel, vous avez vu, Michel Cotta, le sondage de Figaro, l'effondrement de la popularité du ministre de l'Éducation. Il recueillait 62% d'opinions favorables en février. Il n'en recueille aujourd'hui que 46%.
Vous savez, ça vérifie ce que disait Chirac. Quand on ne fait rien, on est toujours très populaire. C'est effectivement à partir du moment où il a commencé à faire quelque chose, une réforme du bac, qui est d'ailleurs qui a absolument peut-être bousculé certains professeurs, mais qui en tout cas abouti à simplifier un examen qui était devenu trop compliqué, trop cher, trop long. Je résume. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, il a perdu.
Des points.
On peut pas dire. Il a perdu des points.
Évidemment.
Enfin, on gouverne pas uniquement quand on est au sommet de la popularité.
Et évidemment, et quand on fait des cadeaux, évidemment. Mais Charles Villeneuve, cette réforme du bac, elle cristallise évidemment. Là, il y a eu la crise des gilets jaunes, il y a eu les stylos rouges, les profs. On l'a vu dans un lycée d'Asnières. On commence à dire lundi, on sera en grève. On verra si ça fait tache d'huile ou pas. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, on peut imaginer qu'il calme la grogne avec sa prise de parole là en conférence de presse de mardi. Et ça a suffi à calmer les ardeurs. Oui, il y aura des marges de manœuvre. Ça peut suffire, ça?
Moi, écoutez, je ne suis pas un spécialiste de l'éducation nationale. Compte tenu de la rigidité de ce qu'est le mammouth, comme on dit, c'est-à-dire l'éducation nationale, il faut y aller mollo. Chaque ministre, de toute façon, a besoin de faire sa réforme. Hein. Ça fait des années que ça dure. Bon. Et moi, je pensais que je l'ai trouvé, lorsqu'il a attaqué ce ministère, très habile, très astucieux. Il y est allé quand même avec beaucoup d'intelligence, de souplesse, etc. Là, j'ai lu tout à l'heure la réforme donc annoncée du bac. Oui. Sincèrement, je trouve ça très compliqué.
Ah, vous voyez, vous n'êtes pas d'accord avec Michel Cotta. Peut-être que le juge arbitre sera
David. Je trouve ça,
David.
Moi je suis si vous voulez, moi je pense que Michel Cotta a un tempérament le même que le mien, c'est-à-dire l'esprit de compétition. Ouais. Moi je suis pour le concours, je suis pour l'examen à la fin, en disant on choisit ceux qui sont au niveau. Bon.
Ce qui n'est pas le cas, on passe au contrôle continu avec cette réforme du bac.
Mais le complément de travailler... Ouais. Si vous voulez, de manière continue et avec beaucoup d'acuité et d'âpreté durant toute l'année, c'est très bien. Sauf que là, maintenant, il t'impose une dizaine. Oui, Michel, il t'impose une dizaine
de
spécialités. Il faut les choisir. Bah oui. Moi, j'ai lu quasiment toutes les spécialités. Je me dis, bon, je ne vais pas choisir les maths les SP.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a quand même le moment de choisir, David, peut-être...
Plus quatre concours, c'est ça. Plus quatre concours dans l'année.
Je ne sais pas si vous serez loyal.
C'est
mais...
compliqué.
Mais c'est vrai que ça semble très
compliqué. Il y a beaucoup d'élèves qui auront du mal.
Les parents d'élèves sont inquiets, les élèves sont inquiets, les auditeurs, ils vont nous le dire, ils sont inquiets ou pas. Michel, vous êtes plutôt optimiste.
Non, je pense que le bac tel qu'il était impossible, était devenu impossible.
Obsolète.
Était obsolète, d'abord parce qu'il n'y a pas de contrôle continu, et ensuite parce qu'il y a des fuites tout le temps. Et que il y a des records et ça dure des heures, ça mobilise des salles de cours, donc ça veut dire autant de cours qui ne sont pas faits au collège et au lycée. Bon, je trouve que le bac tel qu'il était est vraiment obsolète.
Oui, mais là, mi-chèvre, mi-chou.
Je ne veux pas me réfugier derrière la langue de bois ou une position de juge arbitre, mais moi, cette réforme, il faut rappeler aux auditeurs qu'elle rentre en vigueur là, lundi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner. Grosso modo, on a changé les filières traditionnelles S, littéraire,
etc. pour remplacer par un tronc commun.
Pour être remplacé par des choix de trois options, chose qui est beaucoup plus à la carte.
Voilà.
Moi, je préfère attendre un an pour juger.
On fera
avec les parents d'élèves, avec les enseignants et bien sûr avec les élèves eux-mêmes. Mais je constate que cette réforme, elle a un mérite, c'est d'exister. Parce que vous avez quand même un certain nombre de ministres de l'Éducation nationale, et notamment sous le dernier quinquennat, mais pas seulement, il faut bien le dire, qui n'ont soit absolument rien réformé ou qui ont mené des réformes auxquelles on n'a absolument rien compris ou qui n'étaient pas de véritables réformes.
Ouais.
Je pense par exemple à la dernière réforme de Madame Vallaud-Belkacem qui en réalité était, on peut le dire quand même, assez largement.
Mais comment vous expliquez que les profs ne sont pas prêts?
Les
c'est
profs
pas normal
ne sont
qu'ils
pas prêts.
Pas
j'en viens quand même à une forme de tradition. Hein. On citait à l'instant le mammouth. Je crois que dès que vous bousculez quelqu'un ça grogne. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une marge de manœuvre et Jean-Michel Blanquer, il a bien compris, le Premier ministre aussi.
Il n'a pas le choix.
La marge de manœuvre, très clairement, elle est financière, c'est-à-dire qu'il a évoqué la question des retraites des professeurs, avec des retraites spéciales pour les enseignants, et bien sûr la question de la prime
de 300.
Voilà un futur conseiller technique de l'éducation nationale.
Et puis, il y a le primaire, quand même. Il ne faut pas oublier l'effort sur le primaire.
Non, mais bien sûr,
c'est important aussi pour les parents.
Mais Michel, Michel, ce qui cristallise, c'est vraiment beaucoup la réforme du bac.
Mais oui, oui,
Michel,
mais ça cristallise toujours, d'ailleurs.
Pascal, les deux appels des Vosges, Épinal et Pascal est prof, je crois. Pascal, vous
bonsoir,
êtes avec
Nathalie,
nous.
Merci,
bonsoir à vous. Merci de nous avoir appelé au 3921. Pascal, comment vous voyez les choses ?
Alors déjà, Michel Cotin n'est pas le spécialiste de l'éducation nationale, ça s'entend, parce que le bac fonctionne plutôt bien. Et l'usine à gaz qu'on a mis en place est destinée non pas à simplifier les choses, mais à les rendre inégales. Elle parle de contrôle continu. Moi, je vais soulever un problème dont on n'a pas parlé aujourd'hui dans les journées rituelles de rentrée des classes, où on a le discours du principal ou du proviseur, où on présente les nouveaux enseignants, etc. Enfin bon, une journée qui ne sert pas à grand-chose, mais on n'a nulle part abordé le problème du privé. Comment vous jugez le contrôle continu dans le privé ? Je suis stationné tout près d'une école privée qui prend maintenant les enfants à partir de la maternelle et qui va jusqu'en BTS. Donc, ils les prennent à 3 ans jusqu'à 20 ans, s'il n'y a pas de redoublement. Ça fait 17 ans pendant lesquels les parents vont payer un établissement privé, une société qui, par ailleurs, est aidée par l'État, parce que la plupart des écoles privées ne fonctionneraient pas si elles n'avaient pas le soutien de l'État. Et donc, comment vous allez... Et moi, j'ai enseigné dans le public et dans le privé. Je suis aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, mais j'ai enseigné dans le privé. Je pourrais vous citer des tas d'exemples. Quand on avait un problème, le directeur de l'établissement prenait le classeur derrière lui, regardait, puis me répondait. Bah écoute, c'est une famille de cadres supérieurs qui paye tout à fait
normalement.
Donc vous
nous dites en fait
etc.
que c'est un diplôme c'est obtenu ici ne vaudra pas la même chose qu'un diplôme obtenu là.
C'est drôle parce que ça a été longtemps la revendication
voilà, donc,
quand même
c'est
du corps professionnel. Hein.
Donc Charles a parfaitement raison. Charles a parfaitement raison. L'égalité, c'était un examen final, le même pour tout le monde. À la fin de la formation.
Alors attendez, Pascal, je vous repose la question. Vous ne vous dites pas quand même que des élèves qui jouent leur année sur une seule semaine d'examen, je me mets du côté de Michel, mais à la fois c'est juste pour poser les questions qui sont un peu poil à gratter. Jouer son année sur une seule semaine...
À 17 ans ou à 18 ans,
et on sait ce que c'est que cet âge compliqué, peut effectivement... parfois ça passe ou ça casse, et on l'a vu dans combien de cas.
J'ai eu ma première classe il y a 41 ans devant les yeux. Je pense qu'en 41 ans, je n'ai jamais vu un très bon ou un bon élève rater. Je vous rappelle quand même que les taux de réussite au bac sont aujourd'hui de 82, 83, 84. Ça monte jusqu'à 92 suivant certaines filières. Que à part les absents à certaines épreuves du bac, à part les pour maladie ou pour retard, etc., etc. D'accord. À part des gens qui ont déjà lâché prise depuis 6 mois, tout le monde a le bac. Donc, ce n'est pas un problème de savoir
si... C'est pas comme si on l'avait testé que sur 2-3 ans.
Voilà. Et j'ouvre une parenthèse sur le mammouth.
Ah, on va s'arrêter, Pascal. Je suis désolée, mais vous allez nous rappeler prochainement, n'est-ce pas ? Parce qu'en plus, on a bien aimé votre analyse. On a écouté attentivement.
Mais moi, je voudrais bien son numéro de téléphone.
Alors, on le donne en antenne.
Pour échanger et prendre des conseils auprès de lui.
Merci beaucoup, Pascal, depuis les Vosges, de nous avoir rappelé au 3921. Merci à tous les trois. David Revaud-Allonne, Michel Cotta, Charles Mineuve, merci beaucoup.